Écoutez.
Radio Panique.
Radio Panique, et on est de retour pour la dernière partie de cette émission où nous allons revenir sur la chronique pakistanaise. Anne-Marie, c'est à toi. Merci.
Très bien, et ben écoute, depuis 2 semaines au Pakistan, les grandes artères qui traversent le pays sont bloquées. Je ne sais pas si tu sais pourquoi, mais en tout cas, les habitants de l'ouest du pays qui veulent se rendre à l'est doivent prendre l'avion. Depuis 2 semaines, on peut donc dire que rien ne va plus. Tout a commencé avec la fête nationale du pays le 14 août. Les Pakistanais fêtaient l'anniversaire de la création du Pakistan en 1947. Puis, deux partis ont commencé à manifester pour réclamer la démission du gouvernement du Premier ministre Nawaz Sharif. D'après les deux partis, les élections législatives de 2013 qui ont consacré ce gouvernement sont frauduleuses. Même si, entre parenthèses, les organisations internationales n'avaient-elles noté que quelques anomalies. Depuis la mi-août donc, des manifestants de tous les coins du pays marchent vers Islamabad et ils y sont désormais arrivés. Les employés gouvernementaux ont pris peur quand ils ont vu cette marée humaine de plusieurs dizaines de milliers de personnes franchir le périmètre de sécurité des plus hautes institutions du pays. Depuis, des discussions ont été entamées, mais chacun campe sur ses positions pour l'instant. Pourtant, les forces de l'ordre et les manifestants ont déjà eu des accroches meurtrières. Donc, le temps presse et il faut faire vite.
Ce serait bien.
Oui, mais d'où vient ce mouvement soudain ? Le principal acteur de cette marche n'est autre qu'Imran Khan, un ancien cricketeur philanthrope devenu homme politique nationaliste. Il dit qu'il ne réclame aucun recomptage des votes, si ce n'est pour 4 districts électoraux. Il affirme qu'après avoir tenté de faire passer des réformes au Parlement pendant 14 mois pour réclamer justice, rien n'y a fait, d'où son appel fructueux à la jeunesse de marcher dans les rues. Imran Khan est un personnage atypique, unique dans le paysage politique pakistanais. Diplômé d'Oxford, il parle parfaitement anglais, il a créé un hôpital spécialisé dans la recherche et les soins contre le cancer, un hôpital qui ne fonctionne que sur base de dons. Chose incroyable dans ce pays où l'assurance santé est quasi inexistante, tous les soins prodigués sont parfaitement gratuits, entièrement gratuits. Et ils y sont si bons que même les plus riches citoyens se rendent dans cet hôpital. Les plus pauvres ont eux aussi l'opportunité de voir un médecin, ce qu'ils ne pourraient faire dans aucun autre hôpital, s'ils n'ont pas les moyens évidemment. Si ces soins y sont si bons, c'est parce que le personnel soignant, très qualifié, choisit de travailler dans cette institution, même si elle paie moins, parce qu'ils soutiennent la démarche solidaire.
Didi, dis-moi ton avis, comment est-ce qu'un cricketeur, un ancien cricketeur, a bien pu devenir un homme politique ? Enfin, c'est quand même une énorme différence entre les deux, enfin les deux sports, je veux dire.
Moi, je dirais que c'est parce que justement, c'est ce premier investissement pour la société pakistanaise qui l'a décidé à se lancer dans la politique. Lui, il voulait juste faire quelque chose pour la société, faire quelque chose pour rendre à son pays qui lui avait donné tant avec sa carrière de cricketeur. Et c'est à ce moment-là, quand il a vu l'engouement de la population qui donnait des dons alors que les gens n'ont rien, qu'il s'est dit « Waouh, il faut que je rende quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse changer les choses. » Et une manière de faire changer les choses, c'est de se lancer dans la politique. À l'époque, donc, il n'y pensait pas vraiment, mais devant l'engouement des citoyens, il a fondé son propre parti, le Mouvement du Pakistan pour la Justice, en 1996. Depuis, la route de cet homme qui aurait pu rester en Occident et devenir commentateur sportif est semée d'embûches. Ses opposants voient en lui un obstacle à la poursuite de leurs habitudes familiales d'amassement de richesses. Si les intentions d'Imran Khan de développer son pays sont sincères, certaines de ses vues sont jugées un peu trop tranchées. Sur la question du terrorisme, par exemple, il soutient la thèse que les agences internationales sont responsables d'une grande partie des attentats à la bombe. Il a cependant essayé de négocier avec les talibans cette année pour un cessez-le-feu. En vain. Reste que, malgré ses opinions parfois très radicales, Imran Khan, contrairement à ses opposants politiques, a une réelle volonté d'aider le peuple pakistanais. Voilà pourquoi je lui souhaite personnellement, comme des millions de Pakistanais, de sortir sans statu quo pour parler avec Nawaz Sharif et l'armée que le Premier ministre a érigé en médiateur. Beaucoup des supporters de l'ancien cricketeur croisent les doigts pour que la grande muette reste neutre et ne penche pas en faveur de l'actuel Premier ministre, mais reste donc aussi impartial que possible.
Et donc, Ça, moi, je suis très admiratif par rapport à ça, que c'est quand même un homme simple à la base, enfin, un homme simple, un ancien champion de cricket, qui se lance en politique. Je pense que les personnes ont plus tendance à pouvoir se rapprocher de lui que certains hommes politiques actuels, qui sont très tranchés sur la politique, tandis que là, on a affaire à un homme qui a connu la vraie vie, la vie normale, je pense.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, au Pakistan, depuis 1947, ce sont des clans qui se succèdent. Il y a deux, trois gros partis qui se succèdent, tantôt l'un, tantôt l'autre, et à la tête de ces partis, ce sont toujours les mêmes familles. Et le Pakistan ne va pas mieux. L'inflation est énorme, le taux de chômage est plus haut aujourd'hui que jamais. Et donc, on voit qu'au fil des décennies, rien ne s'est amélioré. Et quand cet homme, qui à la base était désintéressé, est venu au pouvoir, les gens se sont dit, ah, c'est peut-être l'espoir. L'espoir d'avoir moins de corruption, l'espoir d'avoir plus de justice, d'avoir un système légal, un système judiciaire, des services de police, une armée qui sont plus à travailler pour nous qu'à travailler pour eux-mêmes. Et c'est ça qui a fait que les gens ont voté pour lui en masse. Et il reproche que, en fait, ces votes n'aient pas été comptabilisés de manière juste. Et il dit que c'est passé vraiment à très peu de choses. Donc, en fait, les organisations internationales disent, elles, on a noté quelques petites irrégularités de ci, de là, mais rien de vraiment énorme. Et lui dit, peut-être que ces irrégularités ont fait changer toute la donne.
Qu'il aurait pu lui-même.
Qu'il aurait pu gagner les législatives, donc avoir plus de poids au niveau de la création de lois, etc. Or, c'est peut-être pas le temps maintenant. C'est peut-être pas ce qui se passe actuellement. Et donc, c'est pour ça qu'il a décidé. Il a dit, écoutez, tous ceux qui veulent me suivre peuvent me suivre. Et moi, je vous invite à marcher vers Islamabad pour demander ce que lui appelle ju la justice. Et les gens l'ont suivi. Pourquoi est-ce que les gens l'ont suivi? Parce qu'il faut savoir qu'au Pakistan, la pyramide démographique est complètement chamboulée. Chez nous, on a une grande partie de personnes âgées ou qui vont être âgées et très peu de jeunes. Là-bas, c'est totalement l'inverse. Il y a vraiment très très peu de personnes âgées. L'espérance de vie est de 65 ans. Et donc, la base de la pyramide, les jeunes, sont extrêmement nombreux. Sont vraiment majoritaires, mais largement majoritaires. La plupart de la population a en dessous de 20-25 ans. Et donc ces gens-là veulent vraiment un changement. Ils ont vu leurs parents travailler, ils ont vu leurs grands-parents travailler, et toujours ces mêmes partis au pouvoir sans jamais avoir de changement. Donc quand lui est venu, ils se sont dit, waouh, ce type, il a beaucoup plus intérêt à rester en Occident, à amasser de l'argent comme commentateur sportif, à vivre une belle vie. Il a été champion du monde de cricket en 92 en tant que capitaine de son équipe. Donc c'est quelqu'un qui vraiment n'a aucun intérêt à être en politique, si ce n'est d'aider ses concitoyens.
D'accord. Et par rapport justement, tu parlais la suite des votes, il y aurait moyen, après, je sais pas, je n'affirme rien, je te pose juste la question, y aurait-il eu moyen que les votes aient été truqués? Ce serait
C'est très...
extrêmement bizarre, ce serait extrêmement bizarre en effet, mais...
Non, ce serait pas spécialement bizarre. En fait, le Pakistan, c'est pas comme chez nous. Je veux pas... Je vais faire bien attention à ce que j'utilise comme terme. Mais oui, évidemment, c'est possible. C'est même plus que possible. Ce serait pas la première fois. Déjà en, je crois, 2012 ou... Je ne sais plus. Il a déjà été élu... Enfin, il y a déjà eu des élections qui étaient à ce moment-là présidentielles et qu'il a perdu. Et déjà, à ce moment-là, il disait, waouh, c'est pas normal que je les ai perdus. Pourtant, j'ai été élu par plein de gens, etc. Mais il a dit, ok, c'est pas grave. Je vais essayer d'aller aux législatives et aux législatives de remporter les élections en majorité. Or, aux législatives, il s'est passé la même chose. Et après 14 mois, donc au sein du Parlement, avec son parti, il voit que il n'y a rien qui change et il essaye de dire, écoutez enfin, pas les amis, mais bon, écoutez, il faut quand même qu'on essaye d'avoir des critères plus stricts et des accessions qui sont, enfin, des assesseurs qui sont un peu plus stricts et plus de contrôle dans les votes, qu'ils soient législatifs, qu'ils soient, enfin voilà, qu'ils soient présidentiels, peu importe. Or, ça n'a pas changé. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, enfin, c'est pas la seule raison, mais il dit, moi, j'en ai marre. Et d'ailleurs, j'écoutais aujourd'hui une interview qu'il avait donnée sur la BBC ou CNN, je ne suis plus sûre. Et il disait qu'il en avait marre de voir dans ce pays les mêmes familles qui sont même pas millionnaires, mais milliardaires, ceux qui sont au pouvoir, alors que le pays est clairement un pays, nous, on qualifierait un pays du tiers-monde, avec un revenu par habitant qui est extrêmement bas et des gens qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc voilà, donc ça, je peux comprendre ses intentions qui sont très nobles et c'est pour ça qu'il s'est intéressé à ça.
C'est ça, c'est juste un homme qui veut aider la population et qui se met des bâtons dans les roues par d'autres politiques qui voilà, veulent le pouvoir et je vais
Voilà.
dire, sans approche, ne font rien pour changer la situation, tandis que cet homme défend, il veut
Oui,
vraiment défendre cette
ses
situation.
intentions, exactement, ses intentions sont vraiment, ne peuvent pas être autres que sincères. Maintenant, dans les faits, la manière dont il s'y prend, certains parlent carrément de coup d'État soft. Certains parlent de dire que voilà, il laisse pas le choix. Et alors, de l'autre côté, il y a le gouvernement au pouvoir qui, lui, soutient que ben c'est pas du tout constitutionnel, etc., et qu'il n'y a pas de respect des forces de l'ordre. Donc, il y a toujours deux opinions. Quand il y a une histoire comme ça, il y a toujours deux versions de l'histoire. Maintenant, et ça, c'est vrai que c'est unique avec ce candidat-ci, avec cet homme politique, puisqu'il n'est pas que candidat, hein, il est quand même au Parlement, c'est que vraiment, c'est le premier qui a un profil comme celui-ci. C'est le premier homme politique qui n'a pas de business, qui n'a pas ses propres industries, usines dans le pays, qui n'a pas de lien avec les gens qui s'occupent de l'électricité, les gens qui s'occupent du gaz, avec les centrales, etc. C'est le premier homme qui est vraiment désintéressé. Et c'est pour ça que les gens lui font confiance, et même une confiance aveugle, puisque comme je l'ai dit, bon, il a quand même des idées qui ne plaisent pas à tout le monde, et qui parfois, certains se disent, c'est un peu bizarre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur ce point-là, mais comme c'est le seul qui est vraiment là et qui vraiment pense à nous, ben je vais quand même le soutenir.
D'accord. Bah, j'espère bien qu'il va être soutenu parce que franchement, enfin non, mais
Si, 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 quand même, il peut y
cet
avoir du
homme,
changement. C'est ça
j'espère
qui serait
bien parce que
intéressant. C'est historique, c'est du jamais vu ce qui se passe là-bas pour le moment. C'est
qu'un
du
cri.
jamais vu. En général, les coups d'État, entre guillemets, qui se sont déroulés au Pakistan depuis 1947, ça a toujours été militaire. Donc, ça n'a jamais été de la part de la population. Donc, même si je dis pas que c'était pas soutenu par la population, mais ça ne venait pas directement du peuple. Or là, on parle de dizaines de milliers de personnes dans les rues, et voilà, il y a tout qui est bloqué. Moi, j'ai des amis qui peuvent pas aller d'une ville à l'autre par bus, alors qu'ils y vont d'habitude. Ils sont obligés de prendre l'avion. Donc, c'est complètement, c'est assez surréaliste. Beaucoup de gens n'auraient jamais pensé que ça allait se produire, mais les gens ont beaucoup d'espoir en tout cas, et ça pourrait à terme peut-être faire changer les choses.
Oui, donc c'est de nouveau, je le répète, cet homme, c'est de nouveau un homme simple qui essaye de défendre ce genre de choses. Donc,
Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas milliardaire,
non,
qui ne
oui,
fait pas
voilà.
ça comme carrière, qui vraiment s'est lancé, effectivement, tu as raison, vraiment avec une intention qui est désintéressée, une intention d'aider son prochain et de rendre à cette nation qui lui a beaucoup donné.
Oui, donc il a vraiment, comparé aux autres politiques, il n'a pas grand-chose à perdre, je vais dire.
Il n'a pas grand-chose à perdre, mais il a pas non plus grand-chose à gagner en termes,
Oui, non plus.
comment dire, en termes matériels, en termes financiers, en termes même de carrière. Il est en fin de carrière, il a
En
plus de
plus.
65 ans maintenant. Donc, il a rien à perdre, c'est clair, mais à gagner, il n'a que l'espoir à faire gagner. Donc voilà, on verra ce qui va se passer. En tout cas, je reviendrai là-dessus dans les semaines qui viennent. Thomas, c'était super de faire cette première émission
Ben,
avec
moi,
toi.
c'était un vrai plaisir en tout cas. Voilà, c'est un vrai honneur. Je remercie Richie qui est à la régie, qui me fait un joli petit signe, très gentil. Donc, Je te remercie beaucoup en tout cas. Anne-Marie, je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli
Pas de
et
souci.
j'espère que...
Si tu reviens, c'est
J'espère rien.
Anne-Émilie, mais c'est pas
Anne-Émilie!
grave.
Oh, excuse-moi, je
C'est
suis
pas grave.
vraiment désolé.
Tout le monde fait
Non,
l'erreur.
non.
C'est un nom assez hors du commun.
Oh, je
Hein.
suis vraiment désolé.
C'est pas grave du tout. T'inquiète pas. C'est ta première fois, donc tu es
Bon,
excusé.
non, je suis
Amplement
viré.
pardonné.
Donc voilà, donc ça a été un vrai plaisir de partager cet instant avec vous. Voilà, j'espère que je pourrai revenir en tout cas.
Eh ben, on l'espère aussi. Ok, Richie,
Richie t'envoie.
tu nous relances quelques musiques. En tout cas, nous, on vous dit tous au revoir
Une très
et
bonne
à
soirée.
lundi prochain pour un nouvel agenda militant, évidemment. Et voilà, très bonne soirée à tous, très bonne
Très
semaine
bonne semaine.
et à la semaine prochaine.
Merci.